Voilà. C'est bon, on a senti la paix de Dieu ce matin, sa douceur. Ça fait du bien, ouais. Alors, je vous invite, ceux qui ont leur Bible, à l'ouvrir en Ésaïe, sinon vous écoutez. Ésaïe chapitre 30, ceux qui l'ont, hein. Verset 15. Ésaïe 30, verset 15. J'ai un sachet là que j'ai oublié de prendre.
Ah, eh ben écoute. Oui, voilà.
Ah, pardon.
J'ai dû appuyer sur un truc là, c'est pas grave.
Voilà, c'est là ce verset. Alors c'était le verset de votre mariage. Eh ben, nous, c'est un couple de l'eau vive qui nous avait offert ça pour notre mariage, à Annette aussi. Donc c'est Ésaïe 30:15. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Il semble que le Seigneur insiste un peu là-dessus. C'est vrai, il y a déjà quelques semaines, Pascal nous a parlé de la confiance. Et c'est que certainement nous avons besoin en ce moment de renforcer notre capital confiance, certainement. Nous avons besoin du calme aussi. Certainement, nous en aurons besoin peut-être pour les temps qui viennent aussi. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est l'invitation du Seigneur qu'il nous adresse ce matin. Être calme et confiance, on va voir, face à l'intimidation, sous toutes ses formes. Et on verra un exemple concret, contemporain, de la période d'Ésaïe. Mais face à toute forme d'inquiétude aussi. On peut être constamment tenté par l'inquiétude, et l'inquiétude peut nous ravager. Et l'inquiétude peut enlever notre joie, et l'inquiétude peut nous empêcher d'expérimenter le secours de Dieu. Alors, quelques mots sur le contexte de cette parole dans Ésaïe. Dieu s'adresse à son peuple qui prend souvent des résolutions sans le consulter, qui fait des alliances sans savoir si c'est sa volonté, comme avec l'Égypte, qui met sa confiance dans même la violence et les détours. Et il y a cette phrase terrible qu'on trouve juste après le verset 15, juste après cette invitation au calme, à la confiance, « Vous ne l'avez pas voulu, waouh !» dit Ésaïe. « Vous avez voulu plutôt compter sur la force de votre cavalerie, sur le soutien de Pharaon. Et nous, n'avons-nous pas quelquefois manqué cette opportunité d'expérimenter la force de Dieu ?» Dans des situations de blocage, dans des situations d'épreuve, dans ce qui nous semblait une impasse, nous avons pu peut-être négliger son appui, son conseil. Nous sommes précipités peut-être dans des décisions sans l'avoir consulté, hein, sans avoir prié, pour nous fier davantage à notre sagesse humaine, ou pour prendre d'autres moyens de secours artificiels. Mais la bonne nouvelle, elle est là tout de suite après, si vous lisez dans Ésaïe 30. Tout de suite après, verset 18. « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde. » Alors peut-être vous regrettez des paroles que vous avez prononcées, précipiter des actes que vous avez commis trop vite, des décisions prises rapidement, trop vite, et vous voyez des conséquences. Entendez la bonne nouvelle. Dieu désire vous faire grâce. Miséricorde. Il désire nous pardonner et nous conduire, quand même maintenant, à recevoir son calme, sa confiance, et renforcer notre capital confiance. Donc cette invitation au calme, à la confiance, il y a un homme qui l'a entendu de la bouche même d'Ésaïe, c'est le roi de Juda à l'époque, Ézéchias. et dans une situation qui pouvait le mettre dans un grand stress, vous pensez bien. Et on va apprendre de lui à réagir avec calme et confiance lorsqu'on est confronté à l'intimidation. On n'est pas tous assiégés, Wavrin n'est pas assiégé, que je sache, par une armée. Bon, on n'est quand même pas dans cette situation. Bon, il y a quand même la menace des attentats qui est là, et c'est un peu un élément nouveau, mais quand même, on n'est pas dans cette situation d'Ézéchias. Mais l'intimidation, ça peut être quoi? Ça peut être une parole très blessante qui nous a été donnée, très blessante, très humiliante. Au travail, même dans notre famille, peut-être dans l'église, ça peut arriver. Bah oui. Hein. Ça peut être une parole très blessante, ça peut être une mauvaise nouvelle. Un accident, une maladie, et on prend peur et ça peut être une persécution de quelqu'un, une persécution verbale, orale de quelqu'un qui fait que on peut prendre peur et on peut être pris par l'intimidation. Alors lisons, dans chapitre 36, Ézéchias, il est dit au premier verset, je crois, la 14e année du roi Ézéchias, Jean Zanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Il envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Rabshaké, avec une puissante armée. Donc, vous imaginez la situation, le roi est là et il entend que toutes les villes à côté tombent. Imaginez, ici on entend l'île Roubaix s'est prise, ça y est, Daesh arrive. Bon, enfin non, tout ça c'est... Bon, mais enfin c'est ce qu'il a vécu. Hein. Ouais. C'est ce qu'il a vécu. Et donc, une puissante armée vient et est prête à assiéger Jérusalem. Ouais. Alors que fait Ézéchias dans cette situation? Et son attitude nous éclaire pour réagir avec calme. Il s'efforce au calme alors qu'il pourrait être dans la panique. Il fait trois choses. Ézéchias fait trois choses. Un, il se tient dans le silence. Il ne répond pas à l'agresseur et il demande aussi à son peuple de ne pas répondre. Regardez bien, verset 21. Ils se turent face aux insultes, face aux menaces. Ils se turent. Et ne lui répondirent pas un mot, car le roi avait donné cet ordre. Vous ne répondrez rien. Vous savez, face à l'intimidation, souvent la meilleure des réponses, c'est le silence. Parce que si on commence à entrer dans un dialogue avec l'esprit d'intimidation, soit notre peur va augmenter et le risque de panique, ou la colère qui n'est pas contrôlée et qui va nous amener à des actes mauvais, probablement. Il se tient dans le silence. Deuxième chose qu'il fait, il se retire seul. Dans la maison de son Dieu, avec son Dieu, dans la maison de l'Éternel, avec Dieu. Ésaïe 37. Lorsque le roi eut entendu cela, il se couvrit d'un sac et alla dans la maison de l'Éternel. Et il veille à ne pas être dérangé. Et on découvre plus loin que Ézéchias a lu la lettre, il a déroulé la lettre de menaces, d'insultes. Il l'a déroulé devant Dieu. Et au verset 14, il est dit, Ézéchias prit la lettre du messager, il l'a lue, puis il monta de nouveau à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel, et puis il adressa sa prière. Il a répandu son cœur devant Dieu. Deuxième chose, on se tient dans le silence et on rapporte à Dieu. On rapporte à Dieu. Est-ce qu'on est prêt à faire de même? À lire la lettre de nos menaces, de nos intimidations, hein, quelquefois, des paroles blessantes que nous avons eues, des mauvaises nouvelles que nous avons apprises, de le rapporter à Dieu, de prendre le temps de fermer notre chambre et puis vraiment de tout dire à Dieu. Et ça peut nous aider peut-être de l'écrire comme sous forme d'une lettre et de présenter la lettre. Ça peut nous aider de le faire comme a fait Ézéchias. Hein. Ézéchias a bien compris que Dieu n'allait pas être insensible à son sort, ni aux insultes qu'il a eues et qui s'étaient adressées à lui aussi. Hein. Je pense que c'est ce que doivent faire tous les chrétiens sous la persécution. Il a compris que Dieu n'allait pas être insensible. Tout ce qui nous vise par le destructeur, l'ennemi de nos âmes, vise aussi celui qui nous a créés. Celui qui nous a sauvés. Donc comme Dieu a pris la défense d'Ézéchias, il prend notre défense aussi. N'avons-nous pas non plus un avocat, Jésus-Christ, hein? Ézéchias s'est tourné vers son Dieu, ouais. Mais il fait une troisième chose. On peut être des grands mystiques et dire, voilà, j'ai tout dit à Dieu, point. Je me suis tenu dans l'excellence, point. Et si on s'arrête là, on peut être encore un grand mystique et pas être forcément, on va pas au bout là. Parce que Ézéchias, il est pas stupide au point de penser qu'il est seul à aimer son Dieu. Mais il va avertir quelqu'un en qui est l'onction, en qui se trouve l'onction. Il va avertir Esaïe. Il appelle, je ne sais plus qui, le secrétaire, là, c'est dit, hein, ouais. Il a le chef de la maison du roi, Shemna, le secrétaire et les plus anciens des sacrificateurs vers Esaïe. Donc il sait qu'il y a quelqu'un qui a l'onction du Saint-Esprit, il va le trouver. Il va le trouver, il va tout dire. Nous avons des amis. Nous avons des frères et sœurs dans l'Église en qui réside le Saint-Esprit. Nous pouvons les trouver pour chercher de l'aide, demander du conseil. Mais il ne va pas seulement quelque part, ce n'est pas seulement Esaïe, mais remarquez à qui fait appel les plus anciens parmi les sacrificateurs. Et là où il y a l'onction, là où il y a probablement la sagesse, qui est normalement chez les plus anciens, ce n'est pas absolu, mais en général, il a cette sagesse d'aller trouver les plus anciens qui d'ailleurs font fidèlement ce qu'il lui demande, qui vont rapporter à Esaïe. Voilà. Il a considéré que l'onction reposait sur le prophète Esaïe, que Dieu pouvait lui parler à travers lui. Il a appelé à l'aide les plus anciens, qui savaient eux aussi reconnaître là où était l'onction. Ézéchias n'a pas fait énormément de choses dans cette situation, mais il a fait ce qui était essentiel. Il a fait silence, il n'est pas entré en dialogue avec l'esprit manipulateur et d'intimidation. Il ne faut pas entrer en dialogue avec cet esprit-là. Il s'est tenu seul devant Dieu, a rapporté à Dieu sa situation précise. Il a averti Esaïe, les personnes sur qui repose l'onction et la sagesse. Souvenons-nous de ces trois choses. Si nous avons affaire à l'intimidation. Ézéchias a cru à la parole qu'Esaïe a dit, ne t'effraie pas. En quelque sorte, allez, reste calme et confiant. Zanchérib va devoir repartir dans la précipitation. Et résultat, Ézéchias et tout le peuple vivent une grande délivrance. Le camp adverse est anéanti par la main de Dieu. Au verset 36 d'Ézéchiel 32 d'Ésaïe, décidément, je ne sais pas pourquoi j'en veux Ézéchiel, l'ange de l'Éternel sortit et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes, et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps morts. Souvenez-vous de la parole qui a été donnée à Rémi, qui nous a partagé, laissez faire le Saint-Esprit. Laissez faire le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut retenir ces choses dans cette invitation au calme, à la confiance, face à l'esprit d'intimidation, avec lequel on n'a pas fini d'être confronté, vous allez voir, dans les années qui viennent. Faire silence et nous encourager au calme et au silence dans ce genre de situation. Ézéchias a encouragé tout son peuple. Taisez-vous, surtout, ne répondez pas. Et on a besoin de frères et sœurs qui, parfois, dans certaines situations où on pourrait exploser, c'est important qu'on évacue, hein, quand même, mais c'est important que face à l'esprit en face, on n'entre pas en dialogue. Et on a besoin de frères et sœurs qui disent, allez, Jean-Luc, calme-toi là, reste calme. reste calme. Cherchez aide et conseil et prière, bien sûr, chez les personnes ointes, remplies du Saint-Esprit, les anciens. Alors revenons à Ésaïe 30. Quelle promesse magnifique. Si on qu'on trouve à la suite de cette recommandation et à la suite aussi de cette déclaration, je désire vous faire grâce. Oui, au verset, je n'ai pas noté le verset, mais je crois que, ouais, verset 19 et 20. Oui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Que représente le pain, généralement, dans la Bible? Que représente-t-il le pain, généralement, dans la Bible? Généralement, hein, à votre avis? Dans, oui, la parole, tout à fait. Dans l'angoisse, le Seigneur veut nous donner une parole qui va nous rassurer, ou plusieurs paroles. Et de l'eau, que représente l'eau, généralement, dans la Bible? Le Saint-Esprit. Bravo Christine, on va donner vraiment deux bons points à Christine, qui a bien répondu. Chers amis, face aux situations où on est confronté à l'esprit d'intimidation, le Seigneur nous dit, sois calme et sois confiant, je vais te donner du pain, la parole, et je vais te donner de l'eau, l'Esprit Saint. Oui, je vais te donner tout ça. Je vais te nourrir de ma parole. Et d'Esprit Saint aussi. Waouh! Quelle promesse magnifique! Et le prophète Ésaïe approfondit un peu cela au verset 21 où il parle du pain. Il dit, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Tes oreilles entendront la voix. Derrière toi, ça veut dire c'est derrière. C'est presque, c'est comme un murmure, c'est comme un chuchotement. Et pour entendre ce murmure, ce chuchotement, il faut être loin du bruit, il faut être au calme. C'est pour ça que Jésus se retirait souvent dans le désert pour entendre la voix de son Père. Et nous aussi, il faut quelquefois fermer la porte, cesser toute activité, aller dans la nature ou dans sa chambre. Faire silence, refuser le téléphone loin, la tablette loin, toute loin, pour entendre le chuchotement, la parole de Dieu. Alors le pain, l'eau, mais aussi donc l'eau, verset 23. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. La pluie, ça parle de l'Esprit Saint. Cette parole que le Seigneur nous communique et qu'on communique, je l'espère, aux autres. Le Seigneur dit, je vais répandre la pluie. Je vais répandre la pluie. Je pense à la marée montante, que Pascal, la vision de la marée montante que Pascal a reçue mardi dans la prière. On peut être de temps en temps à marée basse, comme il disait. Hein, et cette marée basse peut nous troubler, mais un moment, la marée haute arrive. La marée haute arrive. Dieu désire répandre sa pluie sur cette parole qui nous communique et qu'on communique à notre tour aux autres. Est-ce que vous le croyez? Et cette pluie va donner un pain savoureux, encore le pain. Et là, c'est quoi le pain savoureux? C'est des âmes qui, dans le culte, peuvent pleurer, comme ce matin Thérèse, peuvent pleurer d'émerveillement. Dieu va nous donner ce pain savoureux. C'est ça, j'ai toujours la conviction que ce pain savoureux, c'est ces âmes émerveillées par Dieu, transformées, qui au culte vont pleurer, tellement elles vont être touchées par l'amour de Dieu. Et Dieu veut faire ça dans cette église, j'en suis convaincu. Est-ce que vous croyez que dans votre quartier, dans votre rue, est-ce que vous croyez que dans votre université, dans votre école, dans ce quartier ici, Dieu a un pain peut-être savoureux? Dieu va répandre la pluie. Dieu veut répandre la pluie. Amen. Amen. Le calme et la confiance. Mais il faut passer par le calme et la confiance. Face à l'intimidation. Mais aussi face à l'inquiétude. Et là, je cite ce verset que j'ai cité dans le week-end dans sa présence. Puis je vais demander à Annette ensuite de venir redire un rêve qu'elle a eu il y a 3 semaines. Donc je m'excuse pour ceux qui l'ont déjà entendu. Mais on avait vraiment la conviction que tous puissent l'entendre. Et beaucoup l'ont entendu et beaucoup n'ont pas forcément entendu l'interprétation aussi. Parce qu'on a prié pour recevoir l'interprétation qui sera plus courte que j'ai donnée au château. Hein. Mais Matthieu 6, vous avez une Bible, verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Waouh. Le Seigneur nous invite à regarder les oiseaux dans le ciel. Tu veux venir, Annette, partager le rêve, un rêve qu'elle a fait il y a 3 semaines et que nous croyons que ça vient de Dieu, puisque le lendemain, enfin, vous allez vous entendre, Dieu nous a encore parlé à travers ça.
Voilà, j'ai bien aimé le chant « Dieu présent dans mes rêves ». Donc voilà, c'est une confirmation. Écoutez, voilà, j'ai fait un rêve très court, mais je suis descendue, j'ai dit à Jean-Luc, j'ai fait un rêve, mais je te le raconte, donc je vous le raconte. J'étais dans ma maison, donc pour ceux qui connaissent ma maison, ma salle à manger, j'étais assise à la table de ma salle à manger, et en face de moi, un monsieur, pas jeune, parce qu'il avait les cheveux blancs. Et il était en face de moi, et c'est évident, il était venu avec ses oiseaux à ma maison, mais avec des beaux oiseaux qui faisaient voler dans ma maison. Donc c'était des oiseaux rouges, jaunes, de toutes les couleurs. Et je lui ai dit, oh, mais qu'est-ce qu'ils sont beaux vos oiseaux. Donc voilà, j'étais assis, puis je regardais ces oiseaux. Mais j'ai dit, vous savez, si j'ouvre la porte de ma salle à manger, c'est mon jardin, ils vont s'envoler. Et c'est là qu'il me répond, mais alors d'une tranquillité paisible, non. Parce que même s'ils s'envolent, ils reviendront toujours. Voilà, mon rêve s'arrête. Et j'étais frappée par deux choses, c'est que ces oiseaux étaient d'une beauté magnifique et cet homme d'une sérénité, pas d'affolement, pas d'inquiétude, ils vont revenir, ils reviendront toujours. C'était vendredi matin, samedi soir on était invités, là on n'est plus dans le rêve, samedi soir on était invités... Thérèse, elle est témoin chez Béatrice, notre groupe de maison. Et on s'est fait une soirée pomme de terre au four. Et tout d'un coup, j'entends des cris d'oiseaux. On entend des cris d'oiseaux dans sa maison, des chants d'oiseaux. Alors je dis, tiens, vous avez des oiseaux. Elle me dit, non, c'est ça. Donc, c'est la pendule qui, toutes les heures, chante un cri d'oiseau. Et elle dit, et Jean-Luc qui dit, j'aurais toujours aimé avoir une pendule comme ça. Et elle répond, ne bouge pas, Jean-Luc, je vais t'en chercher une en haut. Donc il lui a donné la deuxième pendule avec ses oiseaux. Oh là là, ça fait, je lui raconte ce rêve que j'ai eu la veille. On est tous un peu émerveillés. Et quelques jours après, Odile, tu viens à la maison avec une plante. Elle me dit, tiens, Annette. Pas pour remerciement. Et qu'est-ce qu'il y a sur cette plante? Un joli petit oiseau. Bien sûr, un faux. Voilà. J'ai trouvé ça magnifique. Voilà ce que... Et Jean-Luc va continuer.
Voilà. Je termine donc en disant, pensez bien qu'on leur s'est dit, le Seigneur a quelque chose à nous dire. Il a quelque chose à nous dire. Et alors... On s'est dit, qu'est-ce que tu veux nous dire, Seigneur? Donc ces oiseaux, ces beaux oiseaux avec leurs couleurs, ça parle des enfants de Dieu, ceux qui sont beaux. Sont beaux, les enfants de Dieu, vous le croyez? Nous sommes beaux, nous sommes une créature merveilleuse. Et on a tous des couleurs différentes, des identités différentes. Hein, mais on est enracinés en Christ, tous. Et ces personnes, elles passent dans nos vies. Et parfois tellement près, c'est peut-être nos propres enfants qui sont devenus des ados, des jeunes adultes, à qui on a tout dit de la parole de Dieu, à qui on a tout dit. Certains ont fait la rencontre, d'autres peut-être n'ont pas encore fait la rencontre, on continue à prier. Certains ont goûté à cet amour. Peut-être la plupart ont goûté cet amour. Pas seulement nos enfants, des frères, des sœurs qui sont passés dans nos maisons. Qu'on a amené, on était l'instrument et le maillon peut-être pour les amener. Et puis quelquefois, on a peur parce que on a peur qu'ils s'éloignent. On a peur qu'ils s'éloignent de la maison du Père, qu'ils s'éloignent de Dieu. Voilà. Et ces personnes sont l'objet de notre affection, de toute notre association. On les aime et on craint donc de les voir s'éloigner de Dieu. Et ce rêve souligne que ces personnes, c'est important, qui nous sont chères, comme les oiseaux, ne sont pas notre propriété. On ne doit jamais réagir dans une église comme si une âme était la propriété du pasteur ou de l'église. Non. Ils ne sont pas notre propriété. Elles sont la propriété du Créateur. Mais le Seigneur nous dit, ces âmes, si ces oiseaux, regardez les oiseaux dans le ciel, s'ils ont de la valeur pour moi, plus forte raison, ces enfants en Christ, ils ont un prix à mes yeux, une valeur extraordinaire. Ils ont du prix pour le Père Céleste qui désire en prendre soin et les nourrir. Donc chaque fois que nous, on entend ces chants d'oiseaux dans notre maison maintenant, mais chaque fois pour nous tous, que nous voyons les oiseaux dans le ciel, nous entendons les chants d'oiseaux, quelle opportunité de rendre grâce pour la beauté des enfants de Dieu, mais quelle opportunité de rendre grâce pour les soins dont ils sont l'objet de la part de Dieu, malgré nous. Notre peur peut nous pousser quelquefois à mettre des verrous, à les mettre en cage peut-être, mais non. Le Christ les a appelés, nous a appelés à la liberté. On ne peut pas mettre en cage, mettre des verrous autour de nos frères et nos sœurs. Et même s'ils s'envolent, s'ils prennent leur envol, nous avons confiance. Et l'homme, dans le rêve, n'est pas du tout affolé. Il est très calme, il a cette assurance que ces oiseaux qui ont goûté, ces oiseaux qui lui appartiennent ne quitteront pas la maison. Cette assurance, chers amis, elle est dans le cœur du Père pour ses enfants qui ont vraiment goûté à son amour. Est-ce qu'on ne le croit? Cette assurance, elle est dans le cœur du Père. Elle habite le Christ quand il déclare « Mes brebis entendront ma voix, elles ne suivront pas un étranger. » Et quand il déclare que personne ne pourra ravir ses brebis de sa main. L'apôtre Paul avait cette même assurance quand il dit « Je sais que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Il y a comme un principe donc que nous devons absolument comprendre, c'est que plus je progresse dans l'amour, ça implique la connaissance, la profondeur de l'amour de Dieu, plus je vais progresser dans la confiance, plus je vais progresser dans la confiance dans l'œuvre de Dieu en moi, mais aussi chez l'autre. C'est important. Dieu veut renforcer notre capital confiance. Dieu veut renforcer le capital confiance dans les couples. Est-ce que vous avez confiance en votre conjoint? Voilà, c'est important. Mais oui, et c'est important. Est-ce que vous avez confiance? Vous pouvez lui faire confiance. S'il est au Seigneur, eh bien, vous pouvez lui faire confiance. Puisque Dieu lui fait confiance. Ça arrange bien les choses et ça planifie bien les choses que d'être dans cette confiance. Est-ce que nous avons confiance en nos frères et sœurs? Est-ce que nous avons confiance? Dieu veut renforcer notre capital confiance. Et comprendre, nous devons comprendre que si celui qui t'a enraciné dans l'amour de Dieu ne s'éloigne jamais bien vite, il revient toujours à la maison du Père. Celui qui est enraciné. Donc, tout ce que nous avons à faire, chers amis, comme Ézéchias qui n'avait pas grand-chose à faire aussi, face à l'inquiétude, c'est aimer, et continuer à prier dans quelle direction? Que les autres aient une plus grande révélation de l'amour encore. D'accord? Voilà, à travers ce rêve et ces circonstances, j'en arrive à la conclusion. Le Seigneur confirme son invitation à recevoir son calme. et la confiance pour le devenir de nos enfants en Christ, sans céder à la panique, sans nous laisser effrayer par ce qui est apparent. Ce calme et cette confiance et cet amour qu'on a va impacter positivement nos enfants, nos frères, nos sœurs. Elles seront le signe de leur appartenance au Christ et de leur salut éternel. Je reviens à cette gravure, et juste avant de prier, eh bien, comme ces paroles sont gravées sur cette plaque, qu'elles soient gravées sur notre cœur. Qu'elles soient gravées sur notre cœur. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Je vous invite à prier, d'accord ? Allez, on va prier. Je vous invite à vous lever, peut-être. On peut se lever. Et voilà, je vais prier. Voilà. Seigneur, merci pour ta création magnifique. Et dans cette création, il y a les oiseaux du ciel. Et tu nous invites à regarder ces oiseaux dans le ciel pour considérer combien tu en prends soin. Et pour considérer combien tu prends soin à plus forte raison de tes enfants, bien plus précieux à tes yeux que ces oiseaux. Seigneur, nous sommes tes enfants. Nous sommes tes créatures merveilleuses que tu chéris par-dessus tout. Je te loue, Seigneur, pour toutes les créatures merveilleuses dans cette salle ici. Alléluia. Merci pour toutes les créatures merveilleuses. Merci. Que tu chéris, que tu nourris, sur qui tu veilles et tu prends soin, quels que soient les dangers, les attaques, les humiliations, les mauvaises nouvelles, les inquiétudes qui s'ensuivent. Pardonne-nous, Seigneur, nos manques de confiance, peut-être nos hésitations, nos peurs, nos craintes. Merci pour le pain que tu nous donnes, ta parole dans l'angoisse, pour l'eau que tu nous donnes, l'Esprit Saint dans la détresse. Cette parole d'Ésaïe, qu'elle soit gravée, grave-la sur nos cœurs. Donne-nous-la de méditer tout au long de cette semaine, dans des moments seuls avec toi, dans nos cellules de maison peut-être. Donne-nous de nous encourager les uns les autres à recevoir ce calme et cette confiance. Renforce, Seigneur, le capital confiance dans tous les couples ici, toutes les familles, dans nos rapports, y compris dans l'Église, pour la gloire de ton nom. Amen.